Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que vous pouvez suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Journée mondiale du cancer, la maladie est malheureusement en pleine expansion à travers le monde, chez les hommes comme chez les femmes.
La première raison, c'est que les cancers les plus fréquents chez la femme sont les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Alors ces deux cancers sont très bien contrôlés dans les pays développés. Malheureusement, pour ces deux cancers, les traitements et les programmes de dépistage ne sont pas disponibles en Afrique.
Jacques Ferlet, de la section données du cancer, qui travaille pour GloboCan, la base de données en ligne sur le cancer, nous en dira davantage. La NASA a mis en orbite le satellite SMAP qui est dédié aux mesures d'humidité du sol sur l'ensemble du globe terrestre. Épidémie de rougeole aux États-Unis, certains parents refusent de faire vacciner leurs enfants avec des conséquences catastrophiques.
Tous les enfants non immunisés contre certaines maladies sont susceptibles d'attraper cette maladie. Ce qui fait qu'on pourrait voir des cas de polio, des épidémies de polio aux États-Unis.
On entendra le docteur Yves Renaud, médecin à Miami en Floride, et dépister le VIH-Sida ou la syphilis grâce à un mobile ne relève plus de la science-fiction. C'est aujourd'hui une réalité. On marquait cette semaine la journée mondiale contre le cancer. C'était l'occasion pour l'Organisation mondiale de la santé de rappeler que si le cancer est souvent considéré comme une maladie des pays riches, il fait aujourd'hui plus de victimes dans les pays en développement que le sida, la tuberculose ou le paludisme. Quels sont les principaux cancers à frapper les femmes de par le monde? On écoute Jacques Ferlet, qui travaille pour la base de données de GloboCan 2012, qui recense 28 types de cancers dans 184 pays pour le compte du Centre international de recherche sur le cancer.
Chez les femmes, les cancers les plus fréquemment diagnostiqués sont en premier lieu le cancer du sein, le plus loin, qui représente un quart des nouveaux cas de cancer diagnostiqués dans le monde, suivi des cancers colorectaux, du poumon et du col de l'utérus. Par contre, en nombre de décès, les cancers les plus fréquents, les premières causes de décès par cancer chez les femmes sont les cancers du sein et les cancers du poumon, approximativement le même nombre de décès chacun, à peu près 500 000 morts de décès par cancer du sein et par cancer du poumon dans le monde chaque année.
Cancer du poumon dit tabac, cigarette, bien sûr.
Tout à fait.
Et pour les hommes, est-ce que c'est très différent?
Alors pour les hommes, oui, bien sûr, les cancers les plus fréquents sont un petit peu différents. Le cancer du poumon est le plus fréquent chez l'homme, bien sûr, suivi du cancer de la prostate, du cancer colorectal, de l'estomac et du foie. Donc c'est des cancers un peu différents. Et les causes les plus fréquentes de décès par cancer chez les hommes sont les cancers du poumon, du foie et de l'estomac, puisqu'ils ont un très mauvais pronostic, malheureusement.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité dû au cancer est particulièrement élevé en Afrique. Est-ce qu'on sait pourquoi?
C'est dû à plusieurs facteurs, je dirais. La première raison, c'est que les cancers les plus fréquents chez la femme sont les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Alors ces deux cancers sont très bien contrôlés dans les pays développés puisqu'on a des programmes de dépistage et qu'on sait traiter beaucoup de cancers du sein. Malheureusement, pour ces deux cancers, les traitements et les programmes de dépistage ne sont pas disponibles en Afrique. Il n'y a pas de ressources suffisantes pour mettre en place ces programmes de dépistage, ce qui fait que les tumeurs arrivent à un stade très avancé et ne sont pas du tout curables. Donc ça, c'est une première chose pour les cancers féminins. Et puis pour les cancers masculins, qui sont les plus fréquents en Afrique, ce sont les cancers du foie, de la prostate et de l'œsophage. Bon, le cancer du foie pourrait être prévenu si on pouvait vacciner tous les jeunes enfants, mais le cancer de la prostate et de l'œsophage aurait besoin de pouvoir être traité d'appareils de radiothérapie. Et malheureusement, il y a très peu de matériel de radiothérapie disponible dans les pays africains.
Quels sont certains des facteurs qui exposent les individus à des risques plus élevés de cancer?
Alors, vous avez parlé de l'inactivité, de l'obésité, qui sont des facteurs reconnus dernièrement. Dans une étude, nous avons montré que 500 000 nouveaux cas de cancer chaque année étaient dus au surpoids et à l'obésité, avec une part plus importante chez les femmes. Donc, qu'une alimentation saine, riche en fruits et légumes, associée à une activité physique, est à conseiller, bien sûr. Par contre, ce que nous déconseillons, c'est la consommation d'alcool. Pour se prémunir du cancer, il faudrait, dans un monde idéal, ne pas boire du tout d'alcool. Certains cancers, comme le col de l'utérus et le cancer du foie, comme je vous l'expliquais en Afrique, sont dus à des virus. Donc il faudrait se vacciner dès le plus jeune âge, donc suivre des campagnes de vaccination. Il faudrait également aussi ne pas s'exposer trop longtemps au soleil, ne pas abuser des cabines de bronzage, suivre toutes les recommandations professionnelles pour éviter de s'exposer à des cancérigènes connus. Et enfin, il y a aussi des facteurs génétiques, notamment pour le cancer du sein et le cancer colorectal, même si les facteurs génétiques rentrent dans un très faible pourcentage dans le nombre de cancers du sein et de cancers du colorectal.
Le tabac joue-t-il toujours un rôle aussi prépondérant dans les cancers ?
Alors le tabac reste toujours la première cause identifiée du cancer. C'est lui, le cancer du poumon qui est fortement donc lié à la consommation de tabac, je vous ai dit, était la première cause de décès par cancer chez les hommes. Et c'est maintenant, et c'est un fait nouveau, la première cause de décès par cancer chez les femmes à égalité avec le cancer du sein. Il est d'autre part associé aussi à la survenue d'autres cancers, comme le cancer de la bouche, de l'oropharynx, de la vessie, de la cavité buccale. Et donc le premier conseil à donner, c'est pour se prémunir du cancer, c'est surtout de ne pas fumer, bien sûr.
Et finalement, selon l'OMS, le nombre de cancers va augmenter au cours de la prochaine décennie. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors l'augmentation du nombre de cas de cancer dans les années à venir, je dirais qu'elle est due à trois facteurs. Principalement, les deux premiers facteurs sont des facteurs démographiques. Le premier, très simple, c'est que la population mondiale va augmenter dans les années à venir. Donc plus il y aura de gens vivant sur la Terre, plus il y aura de nombre de cancers qui vont augmenter automatiquement. La deuxième raison, c'est que la population mondiale va changer, c'est que l'espérance de vie augmentant, nous allons vivre de plus en plus vieux. Or, le cancer, c'est une maladie essentiellement des personnes âgées. Donc plus il y aura de personnes âgées, plus malheureusement il y aura de cancers diagnostiqués. Et puis la dernière raison qui peut expliquer aussi cette augmentation dans l'année à venir, c'est l'évolution aussi de risque de chacun des cancers. Certains cancers diminuent partout dans le monde, comme le cancer de l'estomac, c'est une bonne nouvelle. Le cancer du poumon diminue aussi, le risque de cancer du poumon diminue dans les pays développés chez les hommes. Mais malheureusement, il augmente dans les autres parties du monde et notamment chez les femmes. Le cancer du sein, le cancer colorectal aussi augmente, puisque ce sont des cancers qui sont liés à des modes de vie pays riches, et de plus en plus de pays acquièrent ce mode de vie. Donc il y a des cancers qui vont augmenter dans l'avenir, et ce qui fait que l'augmentation du nombre de personnes, l'augmentation de personnes âgées et ses mauvaises habitudes vont faire en fait que le nombre de cancers va augmenter forcément dans les années qui viennent.
Jacques Ferlet, qui travaille pour la base de données de GloboCan 2012, qui recense 28 types de cancers dans 184 pays, pour le compte du Centre international de recherche sur le cancer. Il était joint en France. Camille Grosdidier pour cette édition de Carrefour Science et Santé que vous suivez sur VOA Afrique, un programme de la Voix de l'Amérique. La NASA a placé en orbite un satellite venu couronner une année particulièrement active pour l'Agence spatiale américaine. Jacques Aristide revient sur les multiples missions de la NASA ces 12 derniers mois.
Une fusée de la NASA a placé sur orbite le satellite SMAP, en anglais le Soil Moisture Active Passive Mission, qui est dédié aux mesures d'humidité du sol sur l'ensemble du globe terrestre. Signalons que c'était une journée mémorable pour l'Afrique, vu que le chef du projet n'est autre qu'un Tunisien établi aux États-Unis, Mohamed Abid. Le satellite SMAP va recueillir des données sur l'humidité des sols ainsi que l'humidité de l'atmosphère, ce qui fournira des indicateurs sur la végétation et les cultures, ainsi que les pâturages, des indices précieux pour lutter notamment contre le changement climatique.
And the simple fact is this, the Earth is all interconnected.
Le simple fait est le suivant, la Terre est entièrement interconnectée. Et si vous voulez mieux le comprendre, vous avez besoin d'effectuer des mesures partout, constamment, pour vous faire une idée d'ensemble de ce qui se passe. Et les satellites sont l'une des meilleures façons de le faire.
Tom Wagner, un scientifique de la NASA. Pour revenir sur les autres programmes initiés par la NASA au cours des 12 derniers mois, on évoque d'abord le GPM, ou Global Precipitation Measurement Mission. Son but est d'effectuer des mesures périodiques rapprochées des précipitations au niveau de l'ensemble de la planète. Tom Wagner.
Une des choses les plus importantes avec le dioxyde de carbone, c'est que nous avons besoin de savoir d'où il provient et où il va. Est-ce qu'il s'est absorbé par l'océan? Est-il libéré par la fonte de l'Arctique? Si nous voulons comprendre où la planète en sera dans, disons, 50 ou 100 ans, ce sont des types de processus que nous avons besoin de comprendre.
La NASA, par ailleurs, doté la Station spatiale internationale d'autres instruments au cours de l'année écoulée. Parmi eux, RapidSCAT, qui permettra de récolter pendant 15 ans des données sur les vents océaniques. Et puis le CATS, le Cloud Aerosol Transport System, pour mesurer la distribution des nuages dans l'atmosphère. Et Tom Wagner de conclure.
Il tire des rayons laser pour étudier la relation entre les polluants et d'autres particules et la formation des nuages.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, vous suivez Carrefour Science et Santé. Camille Grodidier avec vous pour VOA Afrique. Le nombre de cas signalés de fièvre hémorragique à virus Ebola a augmenté pour la première fois en 2015 dans les trois pays d'Afrique occidentale où la transmission est encore active, Guinée, Sierra Leone et Libéria. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 124 nouveaux cas ont été signalés au cours de la semaine se terminant le 1er février, avec quelque 80 nouveaux cas en Sierra Leone, suivis par 39 en Guinée et 5 au Libéria. Dans sa dernière mise à jour de l'épidémie, publiée mercredi, l'OMS dit qu'il est urgent de mettre fin à l'épidémie avant le début de la saison des pluies, lorsque l'accès aux zones reculées deviendra plus difficile. Depuis le début de l'épidémie Ebola, près de 22 500 cas et près de 9 000 décès ont été signalés dans trois pays. Récemment, le nombre de nouveaux cas a diminué pendant plusieurs semaines consécutives, suscitant l'espoir que l'épidémie touchait peut-être à sa fin. Mais les experts de la santé ont alors mis en garde les populations, les avertissant de rester sur leur garde face à la maladie. L'OMS a évoqué un enterrement en janvier dans la préfecture de Lola, en Guinée, qui a entraîné l'identification de 11 cas confirmés du virus à Ebola. Les dépouilles mortelles des personnes tuées par le virus restent contagieuses et doivent être enterrées par des travailleurs de la santé spécialement formés et équipés de combinaisons spéciales. Par ailleurs, un essai à grande échelle de deux vaccins potentiels contre le virus à Ebola ont commencé cette semaine au Libéria. Les organisateurs de la campagne de vaccination menée par les Instituts nationaux de la santé aux États-Unis, les NIH ou National Institute of Health, comptent vacciner environ 27 000 hommes et femmes en bonne santé. Par ailleurs, le gouvernement français a annoncé que les résultats du premier essai clinique d'un médicament antiviral japonais dans le traitement contre le virus Ebola en Guinée sont encourageants, notamment en termes de temps de guérison. Le médicament testé, le favipiravir ou Avigan, est développé par le laboratoire Toyoma Chemical, filiale de Fujifilm, précise l'agence Reuters. L'essai clinique mené par l'INSERM a débuté le 17 décembre et a concerné au total 80 malades, adultes et enfants. Les résultats obtenus sont encourageants. Ils montrent une réduction du nombre de décès chez les adultes et adolescents ayant une faible multiplication du virus, indique l'Élysée dans un communiqué. La guérison est accélérée.
Camille Grodidier pour le magazine Carrefour Science et Santé que vous suivez sur VOA Afrique, un programme de la Voix de l'Amérique. Une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre l'ostéoporose, les signes caractéristiques de cette affection du squelette sont une réduction de la masse osseuse et des modifications de la structure de l'os qui devient poreux et s'affaiblit et peut se casser. L'ostéoporose affecte principalement les femmes à partir de la ménopause, mais les hommes peuvent aussi être touchés. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'ostéoporose fait partie des 10 maladies les plus fréquentes et constitue l'un des plus importants problèmes de santé publique du fait du vieillissement de la population mondiale. D'où l'intérêt suscité par des travaux réalisés par des chercheurs du CNRS, de l'INSERM et des universités de Montpellier et de Jean Monnet et Saint-Étienne en France. Dans un article publié par Nature Communications, ces chercheurs proposent un moyen de préserver l'équilibre entre la formation et la destruction de l'os. Ils expliquent que la plupart des traitements actuels contre la perte osseuse suppriment les ostéoclastes, les cellules destructrices de l'os, afin de limiter justement la dégradation de l'os. Mais voilà, en détruisant ces ostéoclastes, on empêche également la formation osseuse, car celle-ci est également stimulée par la présence des ostéoclastes. On écoute Anne Blangy, directrice de recherche au CNRS.
Les ostéoclastes ont aussi une action stimulatrice de la formation osseuse. Et en fait, en les supprimant, on supprime leur effet stimulateur de la formation osseuse.
Alors, quel est l'avantage de la nouvelle approche ?
Dans l'approche que nous avons développée, on ne détruit pas les ostéoclastes, on les empêche simplement de détruire l'os. Et du coup, comme ils sont toujours présents, gardent leur action stimulatrice de la formation osseuse.
Le composé synthétique surnommé C21 provoque quelle réaction bénéfique ?
Donc en fait, ce composé va agir sur les ostéoclastes pour les empêcher de dégrader l'os. Mais il ne va pas les tuer. Ils vont rester sur l'os, mais sans le dégrader.
Et alors, ce traitement innovant a-t-il pu protéger des souris en laboratoire de la perte osseuse caractéristique de l'ostéoporose ?
Alors oui, tout à fait. On a utilisé plusieurs situations dans lesquelles on observe de l'ostéoporose. Il y a le cas de l'ostéoporose post-ménopause qui est bien connu, mais il y a également le cas de la polyarthrite rhumatoïde ou bien des métastases osseuses où on observe une forte perte osseuse. Et donc on a reproduit ces maladies chez la souris. Et dans tous ces cas de figure, le composé C21 permet efficacement de protéger la souris contre la perte osseuse due à ces maladies.
Donc vos travaux permettent d'envisager à terme de nouveaux traitements pour l'ostéoporose ?
Eh bien oui, puisque nous voyons une protection contre la perte osseuse, mais nous voyons aussi que nous maintenons la formation osseuse chez ces souris. Donc ça représente un avantage par rapport aux traitements qui existent déjà. Et donc il sera intéressant de développer ces travaux plus avant pour développer des nouveaux traitements contre l'ostéoporose qui maintiendraient la formation osseuse.
Madame Anne Blangy, directrice de recherche au CNRS, elle était jointe en France. Ici Washington, Camille Grodidi avec vous. Je vous accompagne pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme de VOA Afrique sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Dépister le VIH-Sida ou la syphilis grâce à un téléphone cellulaire ? Eh bien non, cela ne relève plus de la science-fiction, mais c'est une réalité aujourd'hui, explique Michel Joseph.
Il suffit d'un accessoire pour mobile. Le petit appareil reçoit une goutte de sang prélevée et une app s'occupe de l'analyse. En moins de 15 minutes, le diagnostic est rendu, permettant de dépister le VIH et la syphilis avec la même efficacité qu'un laboratoire. Samuel Sia, de l'Université Columbia à New York, a pris l'appareil à l'essai auprès d'une centaine de patients au Rwanda et les résultats ont publié dans la revue Science Translational Medicine. Comment fonctionne l'appareil ? Par la prise jack du smartphone, ce qui le rend parfaitement utilisable dans les zones reculées, lui permettant de se substituer au laboratoire classique. Il permet de détecter la présence de marqueurs biologiques pour le VIH et la syphilis.
Nous mesurons trois choses à chaque fois. Une mesure pour détecter le VIH et deux pour la syphilis. Et les résultats apparaissent 15 minutes plus tard. Ils peuvent apparaître sur votre téléphone portable et être synchronisés avec le dossier médical virtuel des patients.
Traiter rapidement le VIH et la syphilis peut aider à enrayer la propagation de ces maladies potentiellement mortelles, ajoute-t-il. Tous les agents chimiques nécessaires au diagnostic sont contenus dans des cartouches individuelles. L'appareil a été mis à l'essai au Rwanda sur 96 femmes enceintes, donc susceptibles de transmettre le VIH ou la syphilis à leur bébé. Il s'est révélé pratiquement aussi efficace que l'équipement des laboratoires qui réalisent les tests ELISA et beaucoup plus fiable, selon les chercheurs, que les dépistages à domicile déjà existants qui doivent toujours être complétés par des analyses supplémentaires. Surtout, il ne coûte que $34 plus $1,5 par cartouche contre $18,000 pour l'équipement des laboratoires qui réalisent des tests ELISA. Et finalement, il a suffi de 30 minutes pour former les travailleurs de la santé à l'utilisation de l'appareil. Dans les pays en développement, cela compte.
Dans les pays en développement, l'appareil serait probablement placé aux mains des travailleurs de la santé pour qu'ils puissent l'utiliser dans les cliniques, même des cliniques où l'électricité peut faire défaut. Ou encore, ils pourront l'emmener sur le terrain dans un sac à dos pour diagnostiquer les patients où qu'ils se trouvent.
Les smartphones sont en train de révolutionner les diagnostics et traitements en Afrique. Examens oculaires, détection du paludisme ou du diabète, les portables sont en train de devenir des laboratoires ambulants grâce à la puissance du cloud, l'informatique en nuage. Et leur prix modique est mieux adapté que les infrastructures traditionnelles au budget limité des services de santé du continent.
Ici Washington, Carrefour Science et Santé vous est offert par VOA Afrique. Plus d'une centaine de personnes ont contracté la rougeole aux États-Unis depuis décembre 2014, ce qui a incité la Maison-Blanche à inviter les parents à faire vacciner leurs enfants d'urgence. La rougeole est une maladie virale extrêmement grave et contagieuse. En 1980, avant que la vaccination ne se généralise, on estimait à 2,6 millions par an le nombre de décès dus à la rougeole, rappelle l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les symptômes de la maladie, des taches rouges sur la peau, des poussées de fièvre et un nez qui coule. Certes, on ne signale aucun mort pour l'instant aux États-Unis, mais on s'inquiète de ce que l'épidémie prenne de l'ampleur. Néanmoins, un nombre important d'Américains choisissent de ne pas faire vacciner leurs enfants. Pourquoi ? Eh bien, certains craignent d'introduire des substances toxiques dans le corps de leurs enfants. D'autres redoutent des effets secondaires, dont l'autisme. Mais voilà, le lien entre la vaccination et l'autisme est un mythe, déconsidéré par des études scientifiques, explique le docteur Yves Renaud, médecin à Miami, en Floride. Jamais aucun lien n'a été établi entre l'autisme et le moindre vaccin. On écoute le docteur Renaud.
Ceci vient d'une étude qui a été effectuée, mais c'est une étude qui a été totalement discréditée. Mais malheureusement, cette recherche a fait beaucoup de bruit, a été disséminée partout. Beaucoup de mères, beaucoup de parents, beaucoup de gens qui voient que leurs enfants souffrent de la maladie, de ce qu'on appelle le spectre d'autisme. Ceci rend les gens hésitants à emmener leurs enfants pour recevoir les vaccins aux États-Unis. C'est peut-être le seul pays au monde où on a une si forte intensité de rébellion, je dirais, contre la vaccination. C'est même un défi à la science, c'est un défi au CDC, c'est un défi aux instituts de santé aux États-Unis et c'est un défi aux pédiatres parce que les pédiatres sont dans la première ligne de défense.
Quel danger encourent ceux qui refusent de faire vacciner leurs enfants?
C'est un danger direct et un danger indirect. Danger direct, c'est que quand l'enfant attrape, parce que tous les enfants non immunisés contre certaines maladies sont susceptibles d'attraper cette maladie. Ce qui fait qu'on pourrait voir des cas de polio, des épidémies de polio aux États-Unis. On peut avoir des épidémies de méningite aux États-Unis, on peut avoir des épidémies de n'importe quelle maladie infectieuse qui sont actuellement contrôlables à travers le monde, que ce soit la rougeole, la rubéole, etc.
Est-ce qu'il y a des ramifications politiques à cette situation ici aux États-Unis?
Malheureusement, c'est très politisé. Je ne veux pas identifier un secteur politique en particulier, mais on voit qu'il y a un secteur conservateur aux États-Unis et on voit des candidats eh bien, qui sont entièrement contre. Ça paraît une aberration pour les gens qui sont dans le domaine médical parce que tout le support qu'ils ont pour leur argument, c'est une étude qui a été complètement discréditée.
Le docteur Yves Renaud, il était joint à Miami en Floride par Gabi Dorsil. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.